travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben...
Crois-tu encore aux contes de fées, aux prétendants, aux amoureux, aux enfants pis à la femme à marier? Dis-moi si c'est ça vraiment que tu veux. Je peux t'apprendre à jouer au bandit, à l'espion, au double jeu. Lui qui se joue dans l'interdit et attise les curieux.
Conception d'une soirée canadienne.
Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Sur les ondes de Chiz 94.3. Vous êtes à l'antenne. de Chiz 94.3. Et il y a quatre micros de plugger. À mes côtés, Mémo Gauthier, directeur musical, et à ma droite, Émilie Rioux.
Salut.
On vous propose un club critique.
Bonjour.
Comme dans le temps.
Comme dans le temps,
à ouais. trois albums. Où on faisait trois albums parce qu'on avait le temps puis ouais. l'espace mental pour le faire.
Ouais. Ben donc, dans la formule radio originelle du Club Critique, on avait donc une émission d'une durée d'une heure où on faisait, comme tu le disais, Gab, trois albums différents. Faut dire que quand on a ramené le Club Critique au début de l'année 2023, c'était pour faire une petite réinsertion sociale tranquillement, pas vite, de le réessayer, de se remettre
un petit retour
un peu
progressif.
Oui. Exact. Ah ouais. Puis Mémo, c'est toi qui as proposé qu'on y aille à fond, Léon, pour aujourd'hui, puis qu'on
oui.
en fasse
oui.
trois.
Ben allons-y. Ben oui, pourquoi pas. On va se roder pour la prochaine saison, tu sais. Puis ça va nous laisser du jus puis le temps pour penser à peut-être un nouveau format, mais d'une heure quand même, parce que une heure, on a le temps de jaser, c'est le fun.
Six prochaines saisons, il y a.
Exact.
Six prochaines saisons.
Oh,
il y a.
Le suspense est à son comble.
Si on n'est pas tous morts à cause du smog.
Ouais, peut-être. J'espère hein? que non.
Okay. Pour c'est quoi les trois artistes, les trois albums qu'on a sur la table aujourd'hui? Mais moi, veux-tu faire un petit menu, un petit ordre du jour?
Ben bien sûr, mais on sait pas encore l'ordre, parce que ça, c'est à déterminer. Ouais. Mais on va donner quand même le menu. Bon. Mais on sait pas dans quel autre qu'on va le manger.
Exact.
En fait, premier album, ou peut-être pas le premier.
Charogne,
exact, l'un des albums, merci. C'est Charogne avec le petit dernier Trigger Warning. On a aussi Squid avec Ho Monolith et Teke Teke avec Agatha également.
Donc c'est trois disques qui sont parus dans les dernières semaines durant le mois de juin.
Je sais pas pour Trigger Warning. Non, Trigger Warning, c'est 23 mai.
Fin mai. OK, en tout cas, on est dans les
Mais
les
sinon, le reste,
temps.
C'est juin. Okay.
On est dans la récence.
Alors, oui, c'est très récence.
Pourquoi est-ce qu'on on sait pas dans quel ordre on va le faire? C'est que, pour vous donner une petite notion de danger, j'ai proposé qu'on ait un dé qu'on va rouler qui va nous dire par quel album on va commencer. Alors, si on a un résultat sur le dé de 1 ou 2, ça sera Teke Teke, qui sera le premier album. Si on a un résultat de 3 ou 4, ce sera Charogne. Et 5 et 6 seront des chiffres qui seront attribués à Squid. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier lancer de dé, les gars?
Ben oui.
Et mon Dieu. Et là, Gabriel est sur le qui-vive parce qu'il va nous donc lancer une chanson après le lancer du dé. Attention, mesdames et messieurs, c'est un.
C'est un.
C'est Teke Teke.
Non, c'est Teke Teke.
C'est Teke Teke. Alors, Teke Teke avec l'album Agatha qui va donc lancer cet épisode spécial du Club Critique. C'est un album avec énormément de chansons très denses. Alors, on vous prépare les oreilles tout de même pour les gens qui ne connaîtraient pas Teke Teke. Mm-hmm. On est devant de la musique à influence de musique traditionnelle japonaise, mêlée à du rock,
psychédélique,
surf
rock, par moment.
Un peu surf, évidemment. Donc, on va vous préparer les oreilles à vous lancer dans une aventure avec Teke Teke. Avec quelle chanson, Gab, tu proposes qu'on aille écouter? Ben, est-ce que tu veux...
Le dé est tombé sur le 1.
Ah, oui. Tu veux ouvrir avec la première chanson?
Avec la première,
wow.
thématique. Donc, la chanson s'appelle Garakuta de Teke Teke sur les ondes de Chiz 94.3.
Yeah.
Ça commence en force.
C'était Garakuta de Teke Teke.
Teke Teke. Donc, ben voilà, je vous prépare un petit peu le terrain pour l'album qu'on va discuter. Donc, l'album Hagata, qui est le deuxième album de la formation montréalaise Teke Teke. Par ailleurs, tous les groupes qui ont été sélectionnés cette semaine, Mémo, en sont leur deuxième album. On va donc critiquer des deuxièmes disques.
Wow. Est-ce que c'était voulu de ta part?
Même pas, en plus. Pour vrai, j'avais même pas remarqué mes belles observations.
Donc, puis, ce que j'adore là-dedans.
Le fameux deuxième album d'un groupe.
Parfois on est très critique d'un deuxième album, parfois non. Alors là, moi, je dois dire que pour un deuxième album, Teke Teke nous en met vraiment plein la vue.
Ouais.
C'est donc un disque qui, pour les gens qui les connaîtraient déjà, est beaucoup moins surf rock que celui qu'ils nous avaient offert à titre de premier LP qui s'appelait Shirushi, qui date déjà de 2020-2021. Fin 2020, début 2021.
Ah ouais,
à l'époque, Shirushi avait été un de mes albums préférés de l'année. C'était taillé une place dans mon palmarès personnel à la fin de l'année, alors j'avais de belles attentes pour Agatha. Vous savez que le titre de l'album signifie, grosso modo dans les termes japonais, le moment présent, mais qui contient des traces du passé. Alors la chanteuse décrivait ce moment, cet état d'esprit-là, comme lorsqu'on se réveille d'un rêve. Et qu'on est comme dans le moment présent tout d'un coup, mais habité encore par des sentiments qui traînent, qui nous viennent de notre rêve. Donc, c'est ça qui décrit Hagata. C'est cet état d'esprit-là qui est donc porteur des chansons du disque. Je parlais donc de moins surf rock, mais beaucoup plus cinématographique dans la musique. Tellement. Ça l'était déjà quand même parce qu'on parle toujours de thèmes très japonais, très épiques. On a toujours l'impression d'être dans quelque part dans une marche militaire. Mm-hmm. Et c'est le cas pour cette première chanson-là. Quand même avec Garakuta. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que les chansons, malgré qu'elles soient toutes en japonais, trouvent une traduction sur Spotify notamment. Donc là où les paroles sont disponibles, elles sont également traduites en anglais. Alors j'ai fait l'exercice à chaque fois de regarder, de suivre les histoires en anglais de chacune des chansons. Et on est devant presque un album concept où est-ce qu'on retrouve justement dans le monde onirique des rêves, il y a de la sorcellerie, des rituels. Ouais. C'est quelque chose qui est assez phénoménal chez Teke Teke.
Faut dire que Tama Yuge, la chanteuse du groupe, est assez ensorcelleuse à ses heures.
Bien nommée, effectivement.
Ouais, quand même.
Mais donc voilà, un album qui, pour un deuxième disque, a abandonné un peu le côté surf rock plus festif peut-être de Teke Teke pour nous amener dans de l'instrumentation beaucoup plus étoffée. On a entendu dans la première pièce beaucoup de flûte traditionnelle japonaise et c'est doublé avec la trompette. Et ça, c'est deux instruments qui s'entrecroisent sur tout. Trombone également, c'est vrai. Donc, les cuivres et la flûte. Les cuivres, c'est relativement nouveau dans l'univers de Teke Teke. On en a énormément. Ça traverse vraiment les 10 pièces. Il y en a partout. C'est beurré. Bord en bord de chacune des pièces. Et donc, ça nous amène dans cet univers cinématographique-là. On a même une interlude à la flûte qui est au milieu de l'album, Meno Haya. Donc, une chanson instrumentale disons, qui a prédominance de la flûte. Je me suis mis une note qui disait « Guitar Hero de la flûte ». C'est comme du gros blowing de l'autre flûte. Je trouvais ça vraiment chouette. Et donc, voilà. C'est un peu l'album Hagata. Peut-être que je pourrais vous le décrire sommairement. Maintenant, j'ai envie de vous lancer la balle, les garçons, à savoir est-ce que ça fonctionne pour vous, cette espèce de chaos musical que l'album de Teke Teke?
J'ai adoré, là. Personnellement, c'est mon premier album de Teke Teke. J'ai jamais écouté le premier album, là, pour être honnête. Puis, je suis comme parti là-dedans. J'avais pas le goût de l'écouter avant. Je voulais pas tomber dans une genre de comparaison. Ah, c'était cool, mais c'était pas ça avant, ou blablabla. Puis j'ai été agréablement surpris, honnêtement. Là, je suis vraiment fan de tout ce qui est psychédélique, tout ce qui est psych rock années 70. Puis il y a vraiment cette touche-là dans cet album-là, justement, qui ressort. Puis ces éléments-là, je trouve que c'est bien fait. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est cinématographique également. Ça l'est super. Moi, ma chanson préférée de cet album-là, vite de même, à ma première écoute, là, c'était Onai Eya.
Chanson plus punk d'ailleurs.
Oui, puis j'aimais full l'interaction entre les guides puis les trompettes dans ce je dis les trompettes mais les cuivres en général là dedans.
Ça sonnait presque ska.
Ouais, c'est la plus ska.
La plus ska de la gang.
Ska japonais.
Moi j'ai trois termes pour décrire cette chanson là, j'ai écrit punk avec des guillemets, rock alternatif 2000 plus chaos occasionnel. Parce que t'as les guitares un peu justement rock alterne de Killers. Une fois de temps en temps, t'as comme une interlude parenthèse où est-ce que c'est plein de cuivres qui brassent.
Très forain.
Mais surprenant quand même.
C'est ça, puis ça part dans tous les sens cet album-là, honnêtement, mais ça te ramène toujours comme il y a comme une espèce de comment dire un genre de point d'accroche parce que tout revient un peu à la flûte puis mm-hmm. à la mélodie autour de cette flûte là puis ouais. c'est je sais pas non c'est vraiment une belle expérience puis j'imagine que c'est un moi je les ai jamais vus en spectacle non plus j'imagine que ça doit être une musique qui doit bien se translate live là je sais pas comment dire ça
bien
se
transposer
ouais, ouais
sorry
ben non, c'est correct tu t'es rattrapé toi-même
ben oui,
ça va.
Ça va mais ouais non c'est ça puis non j'ai bien apprécié ce côté-là, je pense aussi à la chanson c'était Gaia Koya. Moi j'avais l'impression d'écouter genre Goldorak ou comme une vieille émission ouais, des années ouais, 70 ouais, ouais. Un générique
un
de
animé,
début
ouais.
loin ou genre ce qu'il y a des ce qu'il y a un peu des un genre de montage de combat là, que tu pourrais mm-hmm. voir là-dessus là ou
ah, vraiment,
des
vraiment.
Trucs comme ça puis
paf bam boum
oui,
bam.
Vraiment c'est super il y a un petit côté cartoonesque je trouve ouais. à oui. cette musique-là
puis les influences de la musique oui. traditionnelle japonaise en fait qui sont mêlées au rock oui. qui nous font penser à tous ces animés japonais
exactement
justement.
C'est très amusant teke.
Ouais.
C'est jovial, c'est joueur
oui.
là.
Oui. c'est ouais. vraiment. C'est, comme je disais quand on a parti la première chanson, j'étais comme ah ça c'est la chanson ouais, Dropkick Murphys oui. un peu du groupe dans le sens oui. Puis c'est puis ça de façon positive là, parce que ça pourrait être négatif là, ouais. de dire Dropkick.
Moi je l'ai vu comme une fanfare militaire là. J'étais parti en guerre.
C'est un peu ça. C'est exactement ça que je pensais.
J'avoue.
La chanson
I'm shipping up to Tokyo.
La chanson Yurei Zanma qui est l'avant-dernière là, on est vraiment en mode j'ai écrit finale karaté coup de poing là, c'est vraiment comme aïe.
Exact, un kata, tu sais.
Ouais, c'est vraiment ça. On voulait-tu parler du band live aussi parce que
ben oui, ben justement les trois albums que tu as pris à la fois c'est leur deuxième album. Oui. Pour les trois, mais c'est aussi trois groupes qui gagnent à être découverts en live, en spectacle. Autant pour Teke Teke qui est un band de show. Tu peux dire.
Ils sont 28.
L'album, ils sont 28. Ouais, puis ça rentre. Là, ouais. C'est une
c'est
expérience
des bons musiciens,
capotée,
là,
effectivement.
Ouais, les musiciens.
Puis contrairement à toi, Memo, ma tête m'a forcé à comparer au premier album, à l'album précédent. Et puis j'ai vraiment préféré Shirushi. Ne serait-ce
oh,
que. Ouais,
oh,
vraiment,
oh,
vraiment. Ouais. Puis c'est pas parce que cet album-là nécessairement est. Il est un peu plus difficile d'approche, mais je l'ai trouvé plus plus concis. Je crois que c'est là, on s'égarait un peu justement dans plein d'influences, puis d'un point de vue d'une unité, Shirushi est pas mal plus concret, je trouve.
Mm-hmm. Ok, fait que tu dirais que lui est un peu plus orienté vers le jam un peu entre guillemets.
Mais c'est vrai qu'il est plus difficile à l'écouter.
Ouais, j'ai trouvé quand même tough. Ça m'a pris plusieurs écoutes avant de dire ok, ben je veux l'écouter de A à Z, ouais. alors que Shirushi c'était ça coulait. C'était ouais. une rivière éternelle, puis on embarque dedans.
Le côté surf rock fait en sorte que c'est peut-être des références ouais. dans nos oreilles qui sont plus faciles à capter
exact,
et à suivre
exact.
Dans Shirushi.
La cadence, le rythme, ouais. le BPM aussi, comme c'était plus linéaire en ouais. soi, je trouvais Shirushi. Encore là, c'est une excellente galette. Là.
Ah oui.
Don't get me wrong!
Ben, je suis contente que tu dises ça parce que moi, au contraire, ouais. Agatha vient de supplanter Shirushi.
Ah ouais.
Mais je pense.
Pourtant, tu l'avais vraiment aimé. On l'avait fait ici au Club Critique.
Je l'ai adoré. On peut retourner lire ce que j'avais envie de dire à ce sujet-là à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé. Sauf que là, je l'ai écouté. Je pense que j'étais peut-être aussi dans une disposition. J'avais besoin de quelque chose à me mettre sous la dent.
Ouais.
Et moi, d'avoir une chanson qui s'en va dans une direction que je l'attends pas. C'est ça qui m'a plu là-dedans, c'est de me dire OK, la chanson ça va être ça pendant les 30 premières secondes, puis ensuite on me fait un finger puis on s'en va dans une autre direction
ouais,
complètement, puis je fais ah, OK, mais je les suis quand même.
Ouais.
Donc mais je suis d'accord, je comprends que c'est vraiment pas facile à écouter. C'est pas facile d'approche, je trouve ça quand même capoté que ce soit ton premier teki-teki
ouais.
parce que c'est pas le plus facile, je pense que si
ouais,
tu
non.
vas réécouter par la suite le premier, tu vas trouver ça vraiment plus pop.
Mais ça me donne vraiment le goût de l'écouter honnêtement
ouais.
là, puis j'ai vraiment écouté et adoré comme le côté plus expérimental entre
ouais.
guillemets du projet Teke Teke, fait que j'ai bien hâte de voir comme le côté peut-être un peu plus pop, un peu plus concis
ouais.
aussi là.
J'ai envie de vous dire, si jamais vous voulez avoir des chansons peut-être un petit peu plus faciles d'approche sur ce disque-là, je sais pas Gab, toi si t'en as noté qui était
ouais,
peut-être
ben, plus... J'en avais une qui était un peu plus pop puis à la limite quasiment d'un point de vue opéra
ouais.
en tout cas ou très théâtral, mais je me rappelle plus du nom par contre, mais de mémoire je pense que c'est Onagi Eya.
Ouais, j'avais noté aussi
ouais.
Doppelganger, qui est un des extraits, en fait, un des singles
c'est
de
un
l'album,
des singles
qui
ouais.
est un retour très pop rock, très mélodique. Je me suis dit, ça doit être leur hit radio s'il y en a un dans l'album, c'est Doppelganger, qui est dans le milieu de l'album, d'ailleurs, c'est le nombril,
ouais.
cette chanson-là. Puis sinon, il y a aussi la chanson Gotoku Lemon,
oui.
Qui
un
est
la deuxième,
qui est aussi
ouais.
un single.
Ouais.
Donc, je me disais, ils ont bien choisi leur single
ouais.
avec des trucs pas trop longs. Il y a aussi des chansons de 7 minutes. minutes qui sont des oui. aventures épiques où on s'égare ouais. dans plein de zones.
Ouais.
Mais Gotoku Lamune, c'est une chanson qui peut penser un peu à la sorcellerie. Il y a beaucoup de narration. On sent le personnage dans la chanteuse qui essaie de nous vendre les propriétés magiques d'un citron fluorescent dans un monde post-apocalyptique. Encore une fois, je vous conseille de lire les
ouais,
paroles.
Quand même, hein, quand même. Ouais, vraiment. Je pense que je vais prendre plus le temps d'y lire. Puis ça, c'est pour comme pas juste Teki Teki, mais pour tous les projets en général. Je suis vraiment plus axé sur la musique, mais des fois, je pense que je passe à côté peut-être des petites pépites comme ça.
Ouais.
Puis le côté narratif, ça m'a fait full penser à certains moments à comme je sais pas si vous écoutez quand même ça, King Gizzard and the Lizard Wizard.
J'en ai manqué une couple d'albums, il en sort 4 par année.
Mais je comprends, tu sais. Mais moi, j'y suis depuis vraiment longtemps, ouais. fait que j'y écoute ces 4 albums-là par année. Puis
t'as raison.
Puis il y en a. Ouais, puis le côté narratif. Ouais. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, à l'album Murder of the Universe, entre autres, puis Eyes Like Sky. En tout cas, je trouve le côté vraiment comme, c'est ça, narratif, puis comme le côté psychédélique aussi, parce que c'est très psyché comme histoire. Mm. C'est pas comme on raconte l'histoire d'un fermier qui se lève le matin pour labourer sa terre.
Non, il y a toujours des choses. C'est le monde, je parle du monde du rêve, mais c'est un peu ça aussi.
C'est un peu ça, effectivement.
Les cauchemars.
Oui, les rêves et les cauchemars, effectivement. Mais donc, on pourrait lui attribuer une note comme ça, peut-être.
Tout à fait. Sur 10 ou des étoiles?
Sur 10. On peut dire sur 10.
OK, allons-y sur 10.
Qu'on a fait l'autre fois? On a fait sur 10, on continue.
À la fin, on va mettre sur 30.
Émilie, tu commences.
OK. Hey, là, j'ai comme le goût d'aller voir combien j'avais donné sur 10 à l'autre album.
Je vais aller voir.
Je vais tricher.
C'est un peu loin.
Mais là, parce que si je dis que j'ai supplanté et que je donne une moins bonne note, on dirait que ça fonctionne pas. Je vais donner un beau 9 sur 10, je pense. Parce que j'ai été vraiment, vraiment fascinée par le fil continu des cuivres et de la flûte traditionnelle japonaise dont j'ignore le nom, et par les explorations et par les surprises que cet album-là m'a causé. Et si un deuxième album, imagine ce qu'ils vont faire après. C'est ça que je me dis, moi. C'est le deuxième. C'est juste le deuxième. S'ils continuent, où est-ce qu'ils vont aller? Mais il semble qu'ils viennent de nous amener tellement dans un disque dense. Il y a beaucoup de matériel. Qu'est-ce qu'on fait
après? Exact. Est-ce que, tu sais, il va-tu avoir un retour vers de quoi de plus concis ou ils vont juste continuer dans la lignée comme cinématographique d'Agatha, tu sais?
Qui sait? Qui va se passer? Avec tout ça, t'as-tu trouvé, Gab?
Toi, Mémo, ta note. Moi, je cherche encore.
OK, je vais y aller,
Non, ça va, je vais sur WordPress.
Moi, je pense que je donnerais un 7.5. Puis c'est bon, là.
Ah, c'est une excellente
note. Puis un 7.5 parce que, en fait, l'album, je l'ai bien aimé, mais il m'a pas jeté à terre, mettons. Mais ça m'a vraiment donné le goût d'en réécouter plus. Puis je pense que c'est ça. Je pense que je vais prendre le temps de le réécouter davantage. Puis peut-être que je l'ai pas écouté dans le meilleur des circonstances aussi, qui sait. Je l'ai écouté quand même couché dans mon lit, cet album-là. Puis je pense que c'est un album de marche puis de beau temps.
J'avais donné 8.5 à l'époque, donc ça va.
Wow. T'es cohérente.
Moi, je donne un 7, je pense.
Un 7 aussi?
Ouais, 7 ou 7.5. Je mijote entre le 7.2, le 7.25.
Okay.
À mi-chemin entre le 7 et le 7.5.
Mais c'est pas une mauvaise note. Je t'avoue que c'est des bonnes notes pour des albums. Là,
non, tout à fait.
C'est peut-être moi qui ai trop de
tirambique. Je donne jamais 9 ou presque.
Ça peut arriver que ça baisse avec le temps. Là. Moi, je suis juste complètement soufflé. Peut-être dans une couple de semaines, on s'en reparle.
Effectivement, on s'est soufflé. Je vais l'avoir digéré. Peut-être que moi, il va devenir un 8 dans 2 semaines.
Ouais, ça évolue. Il n'y a rien de coup dans le béton.
Est-ce qu'on se permet une dernière chanson?
Oui, selon vos choix, vos recommandations.
Écoute, on y va-t-il avec la dernière? Elle n'était pas trop longue, mais ça.
C'est la plus tranquille, c'est une petite power ballade.
Oui.
J'avais envie de dire même une marche funèbre. Je sais pas si.
Funeste ou funèbre?
Funèbre, là, genre grec et mort. Là.
OK, d'accord. Donc, allons marcher vers la mort avec Teki Teki et Jinzu Maria sur les ondes de Chiz 94.3.
Tama uki agaru ゆっくりと床に舞い上がる。南の風のように葉のぬくもりの中で遠い記憶も
sport local, écoute Cheese 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cet été, Chiz 94.3 s'installe confortablement dans les gradins du Stade Canac, comme vous autres, fans des capitales de Québec! Tous les matchs à domicile seront diffusés sur le web au chiz.ca et tous les matchs à domicile du jeudi au samedi inclusivement seront diffusés sur nos ondes! N'est-ce pas aussi merveilleux qu'un grand chelem en fin de 9e manche, ça? Je pense que oui! Chiz 94.3 FM, radiodiffuseur officiel des capitales de Québec.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous écoutez toujours le Club Critique sur les ondes de Chiz 94.3. On retour de pause, puis avant ça, ben, on a critiqué Teke Teke avec Gataka.
Gataka.
Agatha.
Agatha. Agatha. Oui, Agatha.
Je me mêle de onomatopée.
Ouais. Ta langue te fourche le japonais. Hein?
Ouais, je pense que tu voulais dire le nom de la première
fourche
langue.
Ouais. Ouais, c'est la ouais. Première.
Galakuta.
Galakuta.
T'as fait un mélange des deux.
Un petit peu. Désolé. Allez, désolé.
Grâce à Dieu, on retourne à la langue française parce que le japonais, c'est pas notre fort, je pense.
Dieu, en guillemets. Dieu, en guillemets. Ouais. Si Dieu, c'est quelqu'un, c'est Hector.
C'est vrai.
Hector, qui nous fait une petite spéciale en studio en ce moment.
Oui.
Rendez-vous sur les stories de Chiz 94.3 si vous voulez avoir un avant-goût de notre invité spécial, Canin, qui est en train de manger ma feuille. Bon.
Il a mangé mon devoir.
Voilà. On va entendre une nouvelle chanson, Mémo, de quel groupe?
De Charung. On va aller écouter la première de l'album Fuck Date.
Parfait.
Qui est l'album Trigger Warning, qu'on va parler suite à cette chanson. Hein.
Puis, faisons ça.
Ouais.
Faisons
on va aller donner une petite gâterie avec Thor et aller chercher un verre d'eau entre temps.
Yes, Charung sur les ondes de Chiz 94.3.
Fuck date, booty call, late night, shitty deck, shitty X, triple X, strong text. I say next, triple X, watch me flex. Dick like a T-Rex, paychecks, latex. Don't fuck the prospect, bad sex. Dick pics, play text, rough sex. Fake climax, Xanax X, respect. Treat me like an object, you do love your own reflection. Expect, reject, ghost text, stress gets. Don't give me your address, rip my dress. After sex, cigarette, I confess, I'm depressed. Do you have common sense? Start over, expect. Go back to your own address. I have to flex. I have to flex. I have to flex. Moi pis mon armée de girls, on va venir se pointer dans ton show. Dénoncer ton numéro. T'es mieux de partir au deuxième verse. Because with my girls we have more than enough. Alors on t'a quand même engagé sur une couple de choses d'années, c'est déjà soldataire. Watch out, on s'en vient te ramasser, te dénoncer, exiger qu'ils engagent des femmes pour te remplacer. LGBTQ plus c'est notre time to shine et regarde-nous bien aller. We are on top. We are on top. We are.
C'était Fuck Date de Charung sur les ondes de Chiz 94.3.
Oh, je pense qu'il y a une autre chanson qui part.
C'était menstrué et frustré, mais et ça sera pas tout de suite.
Ça sera pas tout de suite. Hein, parce que... Oui, c'était, on était
prêts. De drame, hein. C'est le fun.
Oui, on aime
ça.
Fun.
Mais là, ça faisait partie de la mise en scène.
C'était voulu. Comme un show de charogne. C'était voulu. Ouais. La mise en scène est là, présente. Yes. Mais ça, on va en parler plus tard aussi.
Effectivement. Effectivement.
Écoutez, charogne, Trigger Warning, deuxième album.
C'était l'album de la semaine, oui, de chez 94.3, la semaine dernière.
Non.
Il y a deux semaines.
Oui.
Il y a deux semaines.
Oui. Ah, oui. Mais okay. J'en ai pas parlé en ondes parce que cette semaine-là, il n'y avait pas de chez que j'arrive. Mm. Puis là, ben.
On en parle là.
On en parle là, OK.
Mieux vaut tard que jamais. Ça fait toujours ben, juste deux semaines qu'il est sorti, cet album-là. Un mois, finalement.
Ben, depuis le 26.
Bon, là. C'est ça.
Ah, c'est parfait. Ça. Pratiquement. Un, deux semaines qui est en un mois, mais bref. C'est ça. Chara, écoutez, c'est son deuxième album du groupe. Qui faisait suite à Mange-moi, qui est sorti en 2017. Petite évolution au niveau du son de l'album, mais ça reste quand même que c'est dans la même thématique, là, très, très post-punk,
dans l'essence punk,
très punk, ouais. Punk avec un grand P, là,
ouais.
tout ce qui englobe l'attitude.
Très large.
Fuck tout. Puis je pense que c'est résumé comme ouais. Très bien. Puis si je peux vous résumer à peu près la thématique de ce qu'on retrouve dans cet ouais. Album-là, je vais écoutez, je lirai pas mes, je dirai pas mes mots parce que ça a jamais été aussi bien dit que par Sharon. Il y a le même.
Oui.
Oui. Donc, Trigger Warning évoque des thématiques féministes telles que la diversité sexuelle et de genre, le droit à l'avortement, l'objectivation du corps des femmes, le non-consentement, les blessures intergénérationnelles et plus encore. Ces thèmes sont abordés de sorte à amener une guérison possible et une force à celles qui l'écoutent, le tout en gardant le côté satirique, dérisoire et provocateur propre à Charogne. Puis, ben...
Voilà.
C'est ça.
C'est voilà, puis c'est bien fait en maudit, honnêtement. Sur ce plan-là, il y a plein de monde aussi qui a travaillé sur cet album-là. Il y a Anne-France Meyer qui est à la réalisation des voix. Sinon, paroles et voix, Catherine Jeanne d'Arc, et guitare, Nas Gagnon, à la basse, Joe Franken, au drum, Sarah Blair. Et il y a du violon aussi sur Abortion et J'ai volé ta guitare, qui a été joué par Sarah Judith Cailleri et autres.
Peut-être mentionner au passage que Catherine Jeanne d'Arc, c'est oui. La chanteuse, c'est le nom de la chanteuse du groupe Charogne. Il y a aussi un projet solo qui s'appelle Catherine. Tout Catherine Jeanne d'Arc.
Exactement.
Donc, c'est deux voies musicales qu'elle explore, elle, qui a un background en théâtre, c'est peut-être bon de le nommer, qui a un bac en théâtre de l'UQAM. Et donc, ça explique peut-être le côté un peu théâtral ou peut-être mise en scène que tu nommais.
Oui.
Donc,
je les ai jamais vus personnellement en spectacle, mais toutes les gens que je connais qui les ont vus... m'ont dit que c'était un événement, c'est vraiment, c'est incroyable, juste
dans
les stories, c'est très dans ta face.
Il y a le provoque, là,
il y a le provoque, puis c'est ça, puis exactement, puis c'est bien fait, c'est pas de la provocation pour provoquer, puis ça passe un message important, puis je pense que cet album-là, je pense que c'est plus qu'un album de musique, dans le sens que c'est surtout le propos qui est important, et non nécessairement comme la musique, tu sais, oui, la musique est bonne, tout ça, mais je pense que c'est comme un véhicule pour quelque chose de plus grand, justement, puis c'est bien utilisé, puis ouais, c'est comme on disait tantôt, c'est vraiment l'antipode d'Orna Chimard.
Ah, tu l'as dit!
Oui, je l'ai dit. Non, c'est bon. Tout le contraire.
Attends, j'ai étudié Ordonne, gaffe, ça va finir.
Ça finit toujours par regarder. Au sens où chaque tune de Charogne est pertinente, voire nécessaire.
Exactement.
Tandis que c'est complètement l'inverse pour les chansons d'Orna Chimard.
Tout à fait.
C'est dit.
Je veux rajouter un truc, par contre, parce que bon, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que peut-être un petit peu de frustration accumulée chez Catherine Jeanne d'Arc. C'est subtil, mais il y a un peu de frustration accumulée.
Subtil, peut-être pas le mot que j'utilise.
Non, c'est correct.
Je pense qu'elle veut nous faire sentir qu'il y a de la colère. Il y a de la colère.
Et avec raison. Là.
Avec raison. Vous l'avez senti, c'était vraiment du propos féministe.
Oui.
Il n'y a vraiment pas de détour qui est pris. C'est vraiment un très direct, premier degré. On ne mâche pas les mots dans les paroles. Même que, bon, fuck la poésie. On est vraiment toujours dans la prose, le premier degré. On est révolté du début à la fin. Par contre, si je peux apposer un bémol là-dessus, et c'est vraiment très personnel, on est là pour ça après tout, je trouvais que le ton était assez linéaire. C'est-à-dire que, bon, OK, fâché à première tourne, à deuxième, à troisième, à quatrième, mais j'ai l'impression qu'elle s'adresse toujours à une espèce d'archétype masculin, macho, qui est comme vraiment le yable. Tu sais, qui est comme si elle avait comme. J'ai l'impression qu'elle crée un personnage qui a comme les sur les défauts, finalement, là, la masculinité toxique incarnée, disons, en un personnage.
Qui est un punching bag.
Exact, c'est un punching bag du tu, qui est très présent dans chacune des chansons. Tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu fais ça, tu fais ça. Et je me demande s'il y a quiconque qui va s'identifier à cette espèce d'incarnation-là, puis qui va recevoir ce message-là, serait-ce un coup d'épée dans l'eau, finalement, que, tu sais, d'avoir cette espèce de démonisation-là, ou est-ce que ça fonctionne? Je me pose la question, en fait, à savoir, est-ce que, finalement, l'objectif est rempli? Quel objectif est rempli? Est-ce que c'est juste un défouloir? Est-ce que c'est juste un punching bag? Ou est-ce qu'on veut vraiment faire passer un message? Si oui, à qui? Mmh. Comment? Comment ça se passe?
Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, là, en fait.
Une porte satirique aussi, là.
Ouais, exact. C'est aussi jouer, comme je pense, sur vraiment les stéréotypes puis des amplifiés, justement.
Ouais, pis, acharnement.
Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Puis tu sais, je pense que, tu sais, au final, l'album, il sera pas fait pour les hommes machos, tu sais, qui sont visés par ça, en fait. Mais ils vont peut-être être faits pour les personnes qui vivent de la violence, pour subies par ces personnes-là, en fait, puis qui le savent pas, puis que peut-être que ça va être comme justement la petite cloche.
Une manière de s'affirmer, finalement.
La petite cloche va faire, ben, peut-être que j'ai envie de la violence, puis j'avais jamais remarqué, ou j'avais jamais pu croire que c'était de la violence, tu sais. Fait que peut-être que pour ça, je pense que ça va venir rechercher.
Ouais.
Ça va venir chercher, tu sais, certaines personnes. Mais sinon, côté musical, en fait, est-ce que c'est venu vous chercher? C'est comment que vous êtes senti suite à l'écoute de cet album?
Moi, j'ai vu live Sharon déjà, donc je confirme que c'est une...
Brag.
Au Pantoum récemment?
Oui, je l'ai vu à toutes les fois au Pantoum sur différents sur différentes scènes, en réalité, et j'ai même déjà vu acoustique au Cégep Limoilou, là, je veux dire, le temps, à leur tout début. Je dois dire que c'est une musique qui, on l'a dit au tout début, s'incarne très, très bien live. C'est des arrangements qui sont, somme toute, rock, rock alternatif, punk. Il y a des petites portions, mais il y a des portions un petit peu plus pop, un peu plus ballade également sur l'album. C'est pas de la musique qui évidemment peut-être étonne par son audace.
Ouais.
Donc musicalement, non, c'est pas tant venu me chercher que ça, mais j'ai quand même le goût de le voir live sur scène parce que c'est de la musique qui s'écoute dans ta face, sur la scène, qui va accompagner, disons, le mordant de Catherine Jeanne d'Arc sur scène. Donc est-ce que c'est un album que je réécouterais beaucoup? Personnellement, je ne crois pas. Peut-être une fois de temps en temps, juste pour comme se défouler ou ben non, kickstarter la journée. Mais j'ai surtout hâte de le revoir sur scène parce que je pense que c'est le meilleur endroit pour la musique, là.
Définitivement, même chose. Je pense pas que c'est un album que je vais tant réécouter souvent, à part peut-être quelques chansons. Tu sais, je pense à Fuck Date. Moi, j'aime beaucoup la bassline sur cet album-là. Également Abortion, qui je trouve que ça me faisait penser un peu aux Melvins à certains moments. Fait que tu sais, c'est quand même des trucs que j'écoute, mais tu sais, est-ce que je suis tout le temps dans le contexte ou dans le mood d'écouter comme
de la musique fâchée?
Ouais, des fois je suis pas fâché assez, puis des fois ça fit pas, mais quand ça fit bien, puis c'est un bon, c'est cathartique là, tu sais. Mais c'est ça. Mais j'ai quand même apprécié ça. Puis moi, j'ai vraiment... Tu sais, on en parlait hors d'onde tantôt de la chanson...
La robe.
La robe, exactement. Qui est
chanson,
un peu
on parle de sa grand-mère.
Pop. Ouais. Mais je l'ai bien aimé, cette chanson-là. Et vraiment, je trouve... peut-être pas nécessairement sa place sur cet album-là.
Il y a une rupture de ton à l'avant-dernière chanson où est-ce qu'on embarque sur des synths années 80 puis où est-ce qu'elle parle du fait qu'elle porte la robe de sa grand-mère et qu'elle incarne donc un passé et tout ça. Donc, on est vraiment ailleurs.
On est vraiment ailleurs, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça pour Catherine Jeanne d'Arc, vu que ça ressemble un peu à ce que Yael fait dans son projet solo, en fait, là, qui est plus synth-pop, plus synth-wave, tout ça. Fait que je trouve qu'à ce côté-là, c'est cool de voir comme ces influences-là se transmettre à Sharon également. Fait que j'ai bien aimé, même si ça fit pas nécessairement sur l'album. Comme au niveau du placement, au niveau du pacing, j'aurais peut-être fait un petit changement, je sais pas quoi suggérer, mais c'est ça.
Je vous suggère d'écouter cette dite robe.
Oh, OK.
Mais avant, on va donner une note quand même, parce qu'on l'a fait pour le premier album. Donc,
une note, je dirais un 6.5. Ouais.
Fair enough.
Fair enough. 6.5.
Moi, je vais aller avec un 7. Je suis la good cop de la journée. Je vais aller avec un 7.
C'est drôle, je pensais à ma note depuis déjà peut-être 3-4 minutes. Mais 6.8 parce que je peux donner des notes. Mais puis je suis littéralement à cheval entre vous deux.
Pointilleux.
Ouais. Stan, têteux.
Un pointilleux. C'est un pointilleux. Bon. C'est un pointilleux. On va écouter la robe donc de Charogne.
Je porte la robe de ma grand-mère. a charmé mon grand-père, celle qui a envoûté mon père. Cette sensualité criante, je la porte. Celle qui a gonflé les sexes pour que j'enfonde des orphelins. Des orphelins. Je porte la robe de ma grand-mère. Je porte la robe de ma grand-mère. Je suis la descendance des déceptions. Je suis le fruit de mariage adultère. Je suis né d'un accident apposé sur mon corps. Toutes ces violences se sont apposées. J'ai accepté la violence au nom de l'amour. J'ai pris l'amour pour la violence. J'ai fait vœu de silence sur votre violence. J'ai été chassé. Embrasser tes lèvres charnues, de barbelés elles m'ont embrassé, pour me barricader au champ des mal-aimés, en être ensorcelé au point d'en redemander. J'ai aimé comme on meurt, l'ardeur à ses heures, toutes ces fois où vous avez joui parce que je ne jouissais pas.
La robe, une chanson de Charogne qui se retrouve sur leur deuxième album Trigger Warning. Vous êtes au Club Critique, il nous reste encore 15 minutes à passer ensemble et là, oui, le dernier mais non le moindre, c'est l'album du groupe Squid qui s'appelle Oh Monolith, et on va entendre une première chanson pour se mettre dans le bain, pour se préparer les oreilles à vous en parler. Gab, quelle chanson on va mettre pour découvrir ensemble l'album Oh Monolith de Squid?
Je suggère la recommandation de Memo, donc on va écouter The Blades.
Oui,
ça te va?
Oui,
ça vous plaît?
Ça vous plaît?
Oui.
Allons-y. The Blades de l'album Oh Monolith de Squid. Thank you.
make you all look great. Joyriding in the sky. The blades will make you pay. Thousand people down below.
Vous êtes de retour au Club Critique, c'était The Blades de Squid sur les ondes de Shiz, 94.3, Club Critique.
Quel album, hein?
Quand même.
Quel album.
J'ai même plus de mots, là. J'étais un peu amorphe parce que c'était trop bon.
Ouais, puis je trouve ça triste qu'on ait vraiment pas beaucoup de temps pour en parler de celui-là, mais regarde.
C'est la vie.
Ouais, c'est la vie.
C'est la vie.
On contrôle pas tout, mais ouais.
Squid, un groupe qui vient de...
Londres. Maintenant, ils sont en banlieue de Londres, Bristol, ou un petit peu au nord.
Parce que je pense qu'ils se sont formés à Brighton.
Ouais, sans... Brighton, ouais, c'est exactement.
Hein?
T'es au courant?
T'es au courant, j'étais là.
T'étais là. T'étais là. Pas beaucoup d'infos sur Squid qui se sont formés en 2016. Ils ont dans la fin vingtaine. C'est le meneur qui a rassemblé un peu tous ces beaux gens-là. Ollie Judge, qui est à la fois le drummer, mais aussi le chanteur du groupe.
Oh, intéressant quand même.
Voilà. Oui. Fait marquant, un fait d'armes assez important.
Effectivement.
Puis on le sent à quelques reprises sur l'album, je trouve, que justement, son kick de drum finit sur une intonation, une note qui étire, tu sais, mais. C'est du génie. Surtout en spectacle, évidemment, c'est un peu le dénominateur commun de nos trois albums. La force du spectacle, Squid, c'est avoir... C'est une obligation, si vous aimez le genre, bien sûr, de voir un spectacle dans votre sainte vie.
Dans votre sainte vie.
Dans notre sainte vie.
Voilà.
Mais d'ailleurs, ils viennent à Montréal en 2024.
2024.
Le 18 février, à la SAT.
À la Société des arts technologiques.
Wow!
Exactement.
Okay.
Gros show.
Un lieu qui souvent nous donne à voir des spectacles très immersifs.
Vous allez en avoir pour votre screening.
Effectivement.
Ok, oui.
Gang de
moi, j'avais jamais entendu parler de Squid, encore moins de la sortie de l'album Au Monolithe, que je n'attendais absolument pas parce que je ne connaissais pas. Alors, je l'ai écouté pour une première fois et j'y ai trouvé, je le disais tout à l'heure, en dehors des ondes, mais la même densité que chez Teke Teke. Je trouvais qu'il n'y avait pas les mêmes instruments, évidemment, mais la même quantité, le même nombre de couches de musique. musique à décortiquer, mais cette fois-ci avec beaucoup de guitare. Il y a une quincaillerie de drums aussi assez intéressante
là-dedans.
Les sonorités percussives sont assez rythmées, assez surprenantes également. D'une chanson à l'autre, on va pas retrouver nécessairement les mêmes tones, les mêmes tonalités au niveau des percussions. Il y a aussi des arrangements autant de cuivre que de bois. Il y a de la clarinette à travers ça aussi qui se glisse ici et là. Quand même un choix audacieux là, pour ce genre de musique-là.
Quand même, puis je trouve que c'est une belle évolution du premier album puis du EP. Là. Mm-hmm. On sait que c'est Squid parce qu'il y a des éléments quand même assez... qu'on reconnaît Squid, là, juste la voix, puis les guitares, puis l'interaction entre la guitare, puis peut-être la bass, puis tout ça. Mais en même temps, c'est une belle évolution. Puis je trouve que on est allé vers quelque chose qui est quand même une influence post-rock, là, dans le sens que je trouve que cet album-là, c'est un album de crescendo. Là.
Ouais.
Chaque tune est un peu un crescendo. Genre.
Très anticlimatique, je trouve.
Ouais.
Mais
justement,
ça fait du
bien.
Ben,
ça dépend, moi, je trouve. Je trouve que ça pète là, sur certaines tunes. Tu sais, je pense à... j'ai écouté... quand j'ai écouté Devil's Den, tout de suite, ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est crescendo core.
Okay. Moi, j'ai écrit Nirvana featuring Sufjan Stevens.
Mon Dieu!
J'ai pas rien écrit de même.
Non, mais c'est parce que c'est disparate aussi. C'est qu'il y a plein d'éléments là-dedans. J'ai même écrit parfois, il y a des beats hip-hop. La chanson commence sur un petit beat un peu hip-hop, la chanson Undergrowth. Puis ensuite, on s'en va dans quelque chose qui ressemble à un peu du Radiohead, une chanson qui pourrait être sur une trame sonore.
Ça pourrait être
sur la trame sonore de Trainspotting.
Ah, définitivement. Mais la dernière qu'on a écouté de Blade, ça me fait très penser à Radiohead, genre l'époque, peut-être. In Rainbows, King of Limbs, genre 2007-2011, genre comme cette période-là. J'entendais de Daily Mail, mais genre version explosif, là.
C'est
que j'entendais ça.
Ben oui, t'as raison.
Ouais.
Jacques Hayes.
Mais il y a des côtés un peu PJ Harvey au début, je trouve. Quelque chose un peu grunge, PJ Harvey.
Puis leur influence jazz est inévitable. C'est clair. Ils ont certainement peut-être même étudié en jazz, là. J'ai pas l'information, mais ou en tout cas, peut-être que leurs parents à il et elle ont un héritage jazz assez marquant parce que ça vient de là. La base, je trouve, est jazz.
On entend le geek musical derrière tout ça.
Définitivement. C'est ça. C'est des grands musiciens. Là,
Des puristes.
Ouais, vraiment. Puis ça se ressent dans tout ça. Puis c'est ça, l'évolution, je la trouve quand même intéressante. Puis il y a la dernière chanson là, qui a un nom à pu finir. Là. If you had seen the bull swimming attempts, you would have stayed away. Cette tune-là, je trouve que c'est leur chanson la plus comme Black Midi un peu, ou slash HMLTD, dans le sens qui est comme théâtral un petit peu, puis ça sort un peu de comme ce qu'on entend normalement de Squid. Pis...
Si vous aviez vu le taureau essayer de nager, vous seriez resté loin.
Ouais.
C'est ça la tune.
Ouais.
C'est narratif, on raconte une histoire, vraiment. On comprend pas tout ce qui se passe, mais on nous raconte quelque chose. Est-ce que vous trouvez que ce groupe-là, avec tout ce qu'on vient de nommer, a ce qu'il faut pour se démarquer de la scène post-punk, qui est quand même assez dense, il y a énormément de groupes.
Moi je pense qu'il se démarque déjà. Moi je pense que c'est dans les top 3 post-punk qu'il y a pas. Là.
Moi aussi, je l'ai mis au même titre, au même niveau que Black Country New Road. Là.
Définitivement, puis Black Midi, peut-être tu seras pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord, mais oui, tu sais, à ce niveau-là.
Définitivement. Je serais même prêt à dire peut-être le premier au-dessus des autres, mais ça, c'est mon humble opinion.
Le premier album?
Que soit au-dessus, exactement.
Ok, je comprends. Oui, peut-être, écoute.
Et le futur nous le dira.
Le futur nous le dira.
S'ils vont persister, s'ils réussissent à faire leur marque encore pour 3, 4, 5 albums, on n'en est qu'au deuxième, rappelons-le. Ouais. Depuis 2016, peu de production quand même pour le groupe Squid.
Quelques EP quand même, puis des albums autoproduits, mais oui, c'est le deuxième album studio professionnel.
Donc, cette qualité-là au deuxième album, je pense que le futur est tout de même prometteur pour Squid, on peut dire.
Il y a même plus de ciel.
J'ai hâte de voir ta cote.
On y va avec la cote? On y va. Émilie commence.
Je vais aller avec un beau 8.5 sur 10 pour ça.
8 fort. Toi, Mémo?
Oui, un 8.5. Peut-être aussi. Non, un 8.8.
Ah, c'est bon. C'est un 9. C'est rare, c'est un 9. Je l'ai préféré en plus au premier.
Ouais, moi tout. Honnêtement, moi aussi.
Brad Greenfield.
Puis je l'ai adoré.
Je suis déçu d'avoir vu Squid en show en France l'an passé parce que je veux voir cet album-là.
Brag.
Rock en scène. Mais là, on va aller à la Société des arts technologiques en février 2024.
Définitivement. Ça va être mon cadeau de fête.
Let's go.
On croit les doigts. Mais donc, c'est avec ça qu'on conclut. Je pense qu'on va terminer sur une chanson de Squid,
oui,
peut-être, pour aller
donc,
reconduire le reste de la programmation. On vous rappelle qu'on vous a parlé aujourd'hui de l'album dont on vient de vous parler, de Oh Monolith, du groupe anglais Squid. Également Trigger Warning, du groupe montréalais punk féministe Charogne. Et de la formation Teke Teke avec leur deuxième disque Hagata, une formation de Montréal. Et qu'est-ce qu'on va écouter pour terminer, Gab?
Ma préférée, Green Light, qui parle de son enfance, en fait, à Holly, une fille qu'il a aimée, d'une personne qui savait pas trop comment approcher, de ride en autobus aussi, puis de vision qui se perd.
Et tout ça en même temps. Voilà. J'étais le Club Critique, format 60 minutes. Yes. On sait pas si on se revoit, la gang.
Merci d'avoir été là.
Merci d'avoir été là.
À bientôt.